Boomerang avec la chef multi-étoilée Anne-Sophie Pic ce matin. Après tout, c'est Noël et Pic et Pic et Boomerang, c'est parti. Alors que toute la famille est déjà en cuisine, parce que c'est pas n'importe quel matin, je pense à ce texte qui lui correspond, à ma famille, à moi. C'est un texte tiré de La Sèche, le si beau roman de Marilyn Débiol, que je vous conseille de lire un jour, parce qu'à travers la cuisine s'y joue le théâtre de soi, des autres, du monde. Elle écrit, et c'est magnifique, « Faire la cuisine m'exalte, m'irrite, m'apaise et me réconcilie, m'ennuie, m'enchante, me dégoûte, ne lasse pas de m'étonner, tant de couleurs, d'odeurs, de consistances à entremêler infiniment. La cuisine me désespère parfois aussi, je n'y comprends rien. Qu'ai-je à voir avec elle? Est-ce une tocade? Qui ai-je envie ainsi de régaler? Qu'est-ce que je veux amadouer? Parfois il me semble que la cuisine me délivre un peu de la violence et je me cabre, car je tiens à ma violence que je déplore comme à la prunelle de mes yeux. Je n'aime pas les gens qui chipotent, j'aime au contraire qu'on mange avec appétit, solidement. Mais en même temps, je crois bien que la cuisine me délivre de la voracité. La cuisine me police et je déteste la cuisine parce qu'elle me police. La cuisine est son corollaire, la civilité. La figure du plus revêche se fend toujours d'un sourire, comme ce que vous avez mijoté pour lui est à son goût, et vous vous entendez dire à qui vous a déplu depuis le début de la soirée, servez-vous à nouveau, je vous en prie, vous me feriez plaisir, jamais vous ne cuisineriez pour vous tout seul. Marilyn Débiol, La Sèche, pour toutes celles et ceux qui vont cuisiner pour nous, pour la famille et son étrange goût.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel goût à la famille pour mon invité d'aujourd'hui, héritière d'une longue lignée de chefs cuisiniers. Depuis son entrée sur le devant de la scène culinaire, elle décroche des étoiles. En veux-tu, en voilà 8, rien que ça, ce qui en fait la chef la plus étoilée du monde. Ses restaurants se multiplient comme des petits pains, de Valence à Singapour, en passant par Londres, Lausanne ou Paris. Bonjour Anne-Sophie Pic.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous une cuisine familiale?
Ah, la cuisine familiale, c'est la cuisine qui rend heureux, qui rassemble, donc c'est la plus belle.
Et sur quels ingrédients phares est-ce qu'elle repose, cette cuisine, dans la famille Pic?
Ah, elle repose sur des produits simples, familialement, parce que finalement, moi quand je pense à cuisine familiale, je pense tout de suite au gratin dauphinois, forcément, qui a bercé mon enfance. J'ai d'ailleurs livré la recette très très tôt quand j'ai commencé à écrire des livres, parce que c'est une recette qu'on veut livrer, qu'on veut faire partager, et très simple à réaliser. Donc oui, c'est toujours une recette qui est liée à l'enfance et qui nous rappelle des bons souvenirs.
C'est ça, quelles émotions est-ce qu'elle vous procure? Est-ce qu'il vous procure ce gratin dauphinois?
C'est les souvenirs qui font remonter des moments heureux, des moments de partage.
Et là, tout de suite, vous pensez à quoi?
Alors moi, quand je pense à la cuisine familiale avec mes parents, je pense les mercredis de mon enfance où le restaurant était fermé et où on déjeunait dehors sous les tilleuls du restaurant. On avait tout le restaurant pour nous, ce qui était royal, parce qu'on vivait au-dessus des cuisines, donc un appartement au-dessus, dans la maison familiale.
Et on mangeait du gratin dauphinois.
Et on mangeait des gratins dauphinois. Alors peut-être un peu moins l'été, on mangeait des asperges, j'avoue.
Moderniser la cuisine familiale, Anne-Sophie Pic, ça passe par quoi? Parce qu'il y a un peu de ça dans votre travail, somme toute.
Alors c'est trouver son chemin sans se renier, et je crois que ça c'est le plus difficile, c'est-à-dire qu'on est constitué de notre éducation, de ce qu'on nous a transmis.
Et la tradition culinaire chez les Pic, qui en est à l'origine?
Alors c'est une femme, Sophie, donc je porte la moitié de son prénom, c'était donc la mère de mon grand-père André.
Votre arrière-grand-mère.
Mon arrière-grand-mère, ça a commencé au pain, donc en Ardèche. Il y avait une ferme, mon arrière-grand-père avait 12 fermes en Ardèche, il avait deux fils, Marcel et André Pic. Et en fait, il y avait un lieu dit où ils étaient tous, dans une ferme principale, donc le pain, où mon arrière-grand-mère a commencé à ouvrir une auberge dans ce lieu-là.
Et quelles étaient ses spécialités?
Alors, ses spécialités, alors elle faisait très bien les gibiers que mon grand-père chassait, et elle faisait les œufs à la neige aux pralines.
Comment est-ce que ça se transmet, en fait, un art culinaire?
C'est une excellente question, d'autant plus que dans ma famille, il y a très peu d'écrits, et il n'y a pas eu de livres de cuisine faits par mon père, notamment. Donc, alors, moi, je vais vous dire, j'ai l'escoffier de mon grand-père, et dans cette escoffier-là, c'est quelque chose que je chéris, il y a des petits papiers où il y a des écritures manuelles de mon grand-père et de mon père.
Ça doit être bouleversant.
Assez bouleversant. Et au début, quand j'ai commencé en cuisine, il était sur ma table de nuit, c'est-à-dire que j'avais l'impression de les avoir à côté de moi, et ça me rassurait terriblement de savoir que ce livre existait. Alors j'ai lu des choses, le gratin de queue d'écrevisse était noté, il y a des recettes qui sont notées, ils avaient une très belle écriture d'ailleurs l'un et l'autre, et mon père a travaillé avec cet escoffier aussi, donc cette transmission c'est peut-être ça.
Vous parlez des cris masculins, dans quelle mesure est-ce que vous avez pensé à votre arrière-grand-mère lorsque vous avez repris le flambeau de l'entreprise familiale ?
C'est des choses qui m'ont été racontées sur mon arrière-grand-mère, je pense que j'ai plus penser à elle en tant que femme et la façon dont elle a agi dans sa vie, une protestante ardéchoise. Il faut savoir qu'avec son mari, ils ont ouvert une école au hameau du Pin pour permettre donc aux enfants de paysans du coin de s'instruire. Donc c'était des gens qui avaient le sens des autres et voulaient donner aussi beaucoup aux autres. Donc c'était une femme, une maîtresse-femme. C'est l'image que j'ai d'elle. Après, au niveau de sa cuisine, je l'imagine des fois, hein, je l'invente. Oui, bien sûr. Et je pense qu'elle était dans la générosité, dans l'extrême rigueur aussi.
Ce qui est intéressant quand même, Anne-Sophie Pic, et votre parcours, autant que votre histoire familiale en témoigne, c'est que la place des femmes dans le monde de la cuisine a toujours été assez ambivalente. Comment l'espace de la cuisine gastronomique est-il devenu, en fait, un territoire essentiellement masculin ? Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai l'impression.
Oui, j'ai l'impression que plus la technique est arrivée finalement en cuisine, plus les femmes sont parties de la cuisine.
Ça
finalement,
paraît
ça paraît fou. Donc moi, quand j'ai commencé, je me suis toujours dit, il faut que tu sois une bonne technicienne parce que et tu comprennes vraiment l'alchimie et du goût et de la cuisson et des sauces. Et parce que une femme n'est pas attendue à ce niveau-là. Donc une femme travaille dans l'intuition, mais la technique est au service du goût et de l'intuition. Hein, il faut se le dire.
C'est en train de changer quand même cette répartition des genres.
Mais bien sûr, mais heureusement. Mais il y a toujours eu des femmes de toute façon dans la cuisine. Et beaucoup de chefs masculins se sont revendiqués de femmes aussi. Donc,
oui.
Non, aujourd'hui c'est une belle époque parce que voilà, le point d'équilibre revient.
Vous dites aujourd'hui, mais quand vous avez décidé de vous consacrer à la cuisine en intégrant le restaurant de votre père, quand vous êtes devenue la patronne, la chef, à quelle menace, à quel coup bas est-ce que vous avez dû faire face, Anne-Sophie ?
Oh, c'est plus le fait que vous avez des gens en face de vous qui croient pas en vous, en fait. C'est terrible. Je crois que c'est la plus grande humiliation qui puisse être, c'est de pouvoir penser que l'autre n'est pas capable d'eux.
Et quand ça arrive, comment on fait pour s'en protéger de ça ?
En fait, quand ça arrive, soit ça fait tomber, soit ça donne une énergie folle, c'est-à-dire qu'on vous pousse la tête sous l'eau et vous remontez à la surface. Moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour propre. Mais ça peut être destructeur aussi. Donc, eh ben, il faut suivre son intuition. Il faut se concentrer. Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand j'étais en cuisine, j'étais excessivement concentrée. Comme s'il y avait quelque chose au-dessus de moi qui me dit de donner le bon ordre des ingrédients, le bon ordre, la recette.
C'est passionnant quand même. Je me demande, travailler avec des équipes plus mixtes, en quoi est-ce que ça change l'ambiance dans la cuisine du grand restaurant ? Qu'est-ce que ça change en fait ?
Ça change tout. Ça change tout. Je m'en aperçois parce que j'ai plusieurs équipes et dès qu'il y a plus de femmes, dès que c'est plus équilibré au niveau, je parle pas de parité, hein, je parle d'équilibre et de la présence des femmes en cuisine, enfin de la mixité en tout cas, les équipes sont beaucoup plus apaisées.
Est-ce que la cuisine est meilleure quand l'équipe est apaisée ?
Bien sûr. C'est de l'entraide, la cuisine. Moi, vous savez, en cuisine, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, je mets jamais la faute sur une personne. S'il y a quelqu'un qui travaille pas bien, c'est la faute du groupe. C'est pas la faute de cette personne, c'est que le groupe n'a pas su l'entraîner. Donc je suis très intolérante sur ça et je fais très attention à ça.
Mais aujourd'hui, votre rôle en cuisine, Anne-Sophie Pic, il consiste en quoi ? Parce que je suppose que vous n'êtes pas toujours, tout le temps, derrière les fourneaux aussi.
Non, bah j'aime être en cuisine. J'aime. Je pourrais pas me voir ailleurs. Enfin, c'est ma vie, la cuisine. Alors oui, j'ai peut-être pas la carotte le matin, j'avoue. Après, moi, je suis une guide, c'est-à-dire que je suis dans la création. C'est ce qui m'épanouit le plus. C'est ce que j'aime faire au quotidien. L'alchimie des goûts, le trouver, imprégner une saveur à une autre. C'est quelque chose d'inouï, en fait.
Quand est-ce que vous avez su que vous aviez un palais ? Comme on dit de quelqu'un qui a une voix ou un nez.
Je pense que j'ai un palais et un nez, cela dit, parce que le nez est l'antichambre du palais. Mais en fait, il se forme au fur et à mesure.
Ça s'entraîne, ça s'éduque.
Mais
un palais.
Bien sûr, ça s'entraîne, ça s'éduque.
Par exemple, pour vous, quelles saveurs que vous avez apprises à découvrir ?
Mais oui, alors moi la saveur que je préfère c'est l'amertume, donc j'ai appris à dompter l'amertume, à la lisser aussi pour la faire accepter par le plus grand nombre.
Ah, c'est l'histoire de notre vie, dompter l'amertume.
Bon, donc, mais c'est vrai que c'est tout un équilibre, une harmonie qu'il faut trouver.
Mais c'est vrai qu'il faut avoir accès pour cela à une certaine cuisine, à une certaine culture culinaire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Aller au restaurant, dans un étoilé, tout le monde ne peut pas se le permettre, ça. Donc démocratiser cet apprentissage du goût, ça passerait par quoi ?
Alors, je pense pas que ce soit une question d'argent ou de niveau. Ou de... Moi, je me souviens très bien du moment où j'ai eu 3 étoiles, c'est pas si vieux. Il y a 2 solutions, soit on s'enferme dans sa tour d'ivoire, et soit au contraire, cette 3e étoile permet de parler, de rester en contact avec les gens qui viennent chez nous, et justement de tisser un lien. J'ai des livres de cuisine, après il y a plein de choses, moi je vois plein de gammes chez moi.
Mais c'est un enjeu pour vous que ce soit plus accessible ?
Oui, bien sûr que c'est, j'aimerais que tout le monde puisse venir dans mon restaurant. et quelquefois les gens m'écrivent, même sur Instagram, peut-être que je ne viendrai jamais chez vous, mais vous me faites rêver. Alors ça me fait mal quand on me dit ça, parce que j'espère ne pas être inaccessible. Enfin,
c'est... En tout cas, c'est vrai que ça fait rêver.
Mon idée, c'est de faire un repas de famille centré sur la Loire et ses affluents. On pourrait commencer par un foie de canard en gelée au coteau du Layon et pain de maïs. Alors Nicolas, j'aimerais bien que vous me fassiez des essais de pain de maïs, quelque chose qui tire sur le pain d'épices ou la galette, vous voyez, mais en gardant le côté croustillant.
D'accord.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté là ? Cassolette de petit gris à la nantaise, bien, suivie d'une chaudrée charentaise. Vous voyez ce que c'est ?
Une chaudrée charentaise ?
Oui, c'est une soupe de poisson et de blanc de sèche. Je la servirai en plat principal. Ensuite, fromage de chèvre et de brebis. Et pour finir, une jonchée rochefortaise.
Mais c'est quoi ça ?
C'est une sorte de fromage blanc. C'est un lait caillé parfumé à l'eau de laurier que l'on fait égoutter sur des tiges de jonc tressées. Quelque chose qu'on ne trouve que sur place. Alors on pourrait peut-être essayer d'en fabriquer ici. Ça sera amusant, non ? Ah ouais,
c'est pour vous ça, Nicolas.
Ouais. Je suis content, moi.
Alors vous trouvez comment ce menu, ça vous paraît ?
Ça me paraît tout à fait cohérent.
Les saveurs du palais, avec Catherine Fraud et Jean d'Ormesson notamment, ce film de Christian Vincent où il est question de cuisine, de pouvoir et de féminin. J'avais envie d'en passer un extrait, parce que c'est un film que j'aime bien et qui a l'avantage de parler de cuisine familiale. Votre palais, on en parlait, Anne-Sophie Pic, comment est-ce qu'il a été éduqué, en fin de compte ? Comment ça s'est passé ?
Ah, il a été éduqué par mon père. Ça, c'est une grande évidence. Je dis souvent que finalement, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est le geste transmis par mon père. Mais le palais, il me l'a transmis. Ça, c'est magnifique. Je pourrais même en pleurer parce que, en fait,
vous êtes émue.
Oui, je suis émue parce que ça semble irréel. Un palais, un goût, c'est de l'ordre de l'imaginaire, c'est de l'ordre de la poésie.
Et il vous disait vos points faibles, vos points forts aussi ?
En fait, il analysait tout ce qu'il mangeait. Donc, quand j'étais à table avec lui, et puis alors souvent, quand les jeunes apprentis passaient le CAP, c'était lui le juge. Donc forcément, moi, je dégustais à côté de lui et j'entendais ce qu'il disait. Et il commentait tout le temps, et c'était pas une critique pour la critique, c'était... j'étais un papier buvard, j'entendais tout ça, et du coup, j'analysais aussi en même temps, puisque je dégustais en même temps que lui.
Le palais, c'est une chose, le geste, vous le mentionniez, c'en est une autre. Comment ça s'éduque, le geste de chef ?
Ben, le geste, ça se pratique. Et puis, chacun a ses gestes aussi. C'est-à-dire que c'est drôle parce que je parlais de ça avec mes équipes hier à la Dame de Pique. Et on riait entre nous en disant comment vous faites les berlingots. Parce que berlingots, il y en a dans tous les restaurants. Ouais. Et chacun fait le pliage du berlingot à sa façon. Et je disais, mais moi, je perce avec le couteau pour évacuer l'air quand je fais mon pliage. Et les autres me disent, non, moi, je fais pas comme ça. Moi, je fais comme ça. Et ce qui était drôle, c'est de se rendre compte que finalement, chacun s'accapare une technique et la fait à sa façon. Donc, il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon.
Oui, attention, il y a quand même des mauvais gestes, Anne-Sophie.
Oui.
Qui peuvent vous coûter votre turbo meunière, votre gratin de finot, votre sauce hollandaise, non ?
Alors, est-ce qu'on peut rattraper ? Oui.
Qu'est-ce que c'est un plat raté ? C'est ça ma question, en fait.
Un plat raté, ce serait un plat dans lequel on n'aurait mis aucun amour.
Ah, c'est vrai ? C'est comme ça que vous le définiriez ?
Ah oui, bien sûr.
La dernière fois que vous avez raté un plat, c'était quand ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, si je rate un plat, c'est parce que je ne suis pas concentrée. Si j'ai des amis dans ma cuisine et que je suis obligée de parler aussi avec eux en même temps que je fais, je peux rater des choses, c'est-à-dire oublier.
Donc là, vous pensez à quoi précisément ?
Oh, j'ai fait des erreurs. Peut-être ouvrir mon robinet alors que la sauce était juste à côté ou des trucs comme ça.
C'est complètement raté dans ce cas-là. En même temps, quand on expérimente, quand on cherche, il arrive qu'on trouve quelque chose en se trompant, non ?
Oui, parce qu'il faut faire des erreurs pour apprendre.
La création d'un plat, d'un nouveau plat, ça commence par quoi, en fin de compte ?
Une idée, une intuition, une sensation, une odeur, un goût, un produit.
Par exemple ?
Ben, moi, je sais que j'ai besoin de me mettre en situation. Donc, ça veut dire faire des ateliers. Alors, souvent, j'invite mes équipes à le faire maintenant, parce que je trouve que dans le partage, c'est génial. Ça me permet aussi de voir où ils en sont dans leur goût, dans leur palais et dans la captation. Alors, c'est souvent Les nouveaux qui rentrent ont toujours peur de cet exercice-là. Parce qu'on peut avoir des agrumes à déguster, donc on râpe le zeste, on goûte le ziste, le jus. Et après, je leur dis, oh, ça vous fait penser à quoi? Quel goût vous avez? La rétro-olfaction, elle se fait comment? Et je laisse parler tout le monde, en fait. Et moi, je note mes impressions aussi. Et souvent, les plats dans ma tête naissent à ce moment-là.
Donc, c'est une vraie cuisine collective, en fin de compte.
Mais oui, enfin, il faut partager. Je pense que dans mes toutes premières années, je gardais un peu pour moi parce que j'avais besoin de me construire et j'avais besoin d'être aussi plus dans le silence, plus dans la concentration. Mais aujourd'hui, j'aime, comme on évolue tout le temps, j'aime partager parce que ça crée.
Justement, quel est le premier plat, la première recette que vous ayez créée, Anne-Sophie Pic, votre première trouvaille, en somme?
Alors, je me souviens d'un homard avec artichaut, gelé de coing. J'avais fait une espèce de gastrique. C'était un sucré salé.
C'est très à la mode, le homard. Noir,
noir fraîche. Oui, enfin voilà, je me souviens de ça parce que c'est un des premiers où j'ai eu un peu fier, un peu voilà, un petit sucré salé. Enfin voilà, c'était. Enfin, pourquoi, je sais pas, mais.
C'est une question qu'on doit se poser tout le temps, en fait. Comment faire pour réussir à constamment surprendre? En tant que chef, non?
Oui, bien sûr. Il faut être. C'est pour ça que je vous disais, il faut être en situation. Donc, ça impose des choses. En tout cas, moi, je m'impose de tout le temps chercher de nouveaux produits.
Il faut se laisser surprendre, en fait, c'est ça?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas être dans ces certitudes. Il ne faut pas se laisser enfermer.
Alors, le goût, le produit qui, dernièrement, vous a le plus surpris, c'était quoi, Anne-Sophie Pic?
Peut-être chaque fois je redécouvre des choses. En fait, on a toujours l'impression de connaître et finalement on connaît très peu de choses. Donc peut-être dans les serres de Laurent Bourgeois dans la Drôme où j'ai redécouvert encore ces menthes là j'y suis allée en octobre novembre. Il y a des variétés qui poussent encore très bien jusqu'aux premières gelées et j'ai encore regoûté. Je dis ah celle-ci je l'avais pas vue comme ça.
Et alors qu'est-ce qui change à cette menthe?
En fait, je pense que le produit vous choisit. Vous choisissez pas le produit. Il arrive naturellement vers vous, et c'est là où, ah, celui-ci, finalement, c'est son tour, c'est à lui maintenant.
En fin de compte, quel art est-ce que c'est, la cuisine, pour vous?
C'est plein de choses, en fait. C'est difficile de le décrire en un mot.
Ça, c'est un art de réunir, alors?
C'est un art de réunir, c'est un art de faire plaisir. Moi, je dis, il faut fondamentalement aimer les autres pour faire la cuisine. Si on n'aime pas les autres, on ne peut pas cuisiner.
Mais quand est-ce que vous l'avez compris, ça?
Je crois que c'est en soi, en fait. Hein. C'est en soi, on est comme ça. Enfin, on a l'éducation. Voilà, je pense que c'est l'éducation qui joue beaucoup. Et puis après, on aime, quoi. Enfin, je pense que c'est aussi se faire aimer, hein, en toute honnêteté.
Oui, mais cuisiner pour être ensemble, ça se fait du coup au prix de la solitude du chef, parfois?
Il faut aussi des moments de solitude, oui. Ouais. C'est moments de concentration, de réflexion, de recul. Souvent, moi, je suis une grande rêveuse, en fait. Je vous dis ça, Augustin. J'ai besoin de rêver. Dans le monde aujourd'hui, je suis des fois.
Ne rêvez pas trop quand vous faites votre sauce, Anne-Sophie, parce que
voilà.
C'est Noël pour tout le monde.
L'exemple.
On va continuer à être ensemble. Alors, en bonne compagnie avec Darlene Love, qui chantait Noël, après tout, c'est Noël. Christmas, Baby Please Come Home, 1963. Vous êtes sur France Inter avec Anne-Sophie Pic. Bon appétit.
Time. sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah, c'est intéressant, on est quelque part entre Anso, la cousine tête bêche, la sœur cachée de Harry Potter et la prêtresse du goût, avec son œil caramel tendre, son sourire velouté crème et son cheveu vin chaud. On n'a qu'une seule envie, c'est de la rejoindre autour d'une bonne raclette, d'une pierrade ou même d'un poêlon à fondu pour partager un moment convivial et riche dans une atmosphère feu de bois, fromage fondu, le tout arrosé d'un petit peu de citrate de bétaïne quand même, on ne sait jamais, avec son pantalon en cuir et ses baskets panthères, délicieusement rock'n'roll, la chef étoilée Anne-Sophie Pic, invitée de Boomerang ce matin. Et ce qui est passionnant, Anne-Sophie, lorsqu'on se penche sur votre art, en fait, c'est de constater à quel point la cuisine, ce que l'on mange, est devenu un sujet de société. C'est-à-dire quelque chose dont tout le monde parle, dans les médias, partout. Comment vous l'expliquez, ça, cette popularité ?
Je crois que c'est aussi l'envie de manger en conscience. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie aujourd'hui, on mange pas que pour se nourrir, on mange pour le plaisir.
Et pour manger bien aussi, j'ai l'impression.
Oui, pour manger bien. Et puis il y a tout le cercle vertueux aussi, avec le producteur, celui qui éduque, parce que dans la relation aussi qu'il peut y avoir avec le produit, il y a aussi le passeur, celui qui produit, qui donne.
C'est intéressant, bien manger aujourd'hui, pour vous, ça voudrait dire quoi ?
Bien manger, ça, c'est manger en conscience.
C'est à la portée de tout le monde, ça ?
Mais oui, pourquoi pas ? C'est, de toute façon, on sait très bien ce qu'on fait. Hein. On a toujours la conscience des actes, de nos actes. Donc,
je veux dire quoi ? Quand on mange un dessert trop chargé, on sait que c'est mal mangé, c'est
ça ? Exactement.
Pour autant, on pense souvent qu'un bon déjeuner ou un bon dîner, ça coûte plus cher, c'est inaccessible, ça exige des produits qui sont plus difficiles à trouver, on se trompe ?
Ça devrait pas l'être, alors ça l'est peut-être encore dans l'esprit, et ça l'est peut-être encore dans la réalité. Mais manger bio à une époque, ça coûtait plus cher. Enfin, moi, je suis d'une région bio, là, la Drôme, j'ai toujours eu la sensation que c'était quand même accessible.
Qu'est-ce que c'est un bon produit ? Pour vous ?
C'est toujours la même chose. La bonne cuisine, c'est celle qui a été faite avec amour. Et un bon produit, c'est tout l'amour qu'a mis un producteur, un éleveur. Enfin, oui, ce cercle vertueux. Un bon produit, c'est un produit qui a un bon goût aussi.
Oui, c'est
c'est
sûr.
Un produit qui nous émeut, en fait.
Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de bon produit sans agriculture, sans bons agriculteurs. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'agriculture telle qu'elle se pratique en France, dans nos économies de marché aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'on a une responsabilité aujourd'hui, quand on est chef, de faire vivre tout un tissu, en fait, local, parce que j'ai eu l'occasion de visiter des agriculteurs, et c'est terriblement difficile quand je vois les conversions bio, ce que ça implique pour ceux qui se lancent. C'est une audace incroyable, c'est une perte de rendement, c'est des fois une année où il n'y a pas du tout de récolte.
Alors, à votre échelle, vous faites quoi pour qu'on comprenne bien ?
C'est les soutenir. Ça peut aussi moralement les soutenir, financièrement les soutenir, enfin être fidèle. Et puis aussi, ça veut dire accepter qu'ils ont ce légume-là à ce moment-là, et ça les arrange qu'on utilise ce légume, oui. Et on s'adapte à la culture.
C'est suivre les saisons, si je vous entends bien. Dans quelle mesure, pour vous, c'est un enjeu d'adopter un comportement toujours plus éco-responsable, aujourd'hui en particulier ?
Bien sûr, oui, c'est prendre soin de l'autre, bien cuisiner, c'est une chose, mais après, c'est toute la chaîne qui est importante.
Et ça vous invite, le débat d'aujourd'hui, à interroger votre propre cuisine. Je pense par exemple à ce nombre de gens de plus en plus importants qui se convertissent à un régime végétarien ou vegan. Ça vous pose question ? Ça vous permet d'inventer ? Ce sont des contraintes qui vous permettent de créer ça aussi ?
Oui, je pense qu'il faut être respectueux de ça. Et en même temps, moi je suis contre l'exclusion. Ce qui fait que j'irai jamais vers une tendance comme celle-ci pour faire plaisir ou pour être dans la tendance, parce que j'aime manger de la viande, j'aime manger du poisson, j'aime manger des légumes, et que pour moi c'est toujours une histoire d'harmonie.
Mais j'aime bien parler avec vous parce que je me rends compte que vous interrogez sans cesse. S'interroger, ça fait partie de votre métier.
Mais bien sûr qu'on s'interroge sans cesse. Quand on fait un plat, je me dis, est-ce que je vais pas trop loin là ? Est-ce que mon client va pouvoir l'apprécier aussi ? Est-ce que je vais pas trop loin dans les saveurs ? Est-ce que oui, c'est un respect en fait.
Et par exemple dans ces périodes de fin d'année. De fête de Noël, quelles questions est-ce que vous vous posez, là, maintenant ?
Là, je me pose la question de ce que je vais préparer pour mes amis.
Il faut se dépêcher, on est le 25, Anne-Sophie.
Mais moi, je suis last minute, Augustin.
Petite, le repas traditionnel de Noël, c'était quoi chez vous ?
Ah, c'est le chapon. Chapon, poularde de Bresse, oui, toujours. Hein, c'est pour moi, ça, c'est une volaille, forcément.
Mais avec ça, il n'y avait qu'une volaille ?
Non, sûrement le gratin dauphinois aussi.
Ah.
Il y avait aussi les truffes, parce que quand même, c'est la région où il y a le plus de, De truffes, quand même.
Dans le gratin dauphinois ou dans le chapon?
Bah, c'est dans le chapon. Oh. Comptisez.
Évidemment, je vous pose la question, Anne-Sophie Pic, parce que vous nous avez concocté un petit repas de Noël. Repas de Noël sonore. Avant de se mettre à table, on va mettre un petit peu de musique, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Grelots, guirlandes et carillons, on s'y croirait. Par quoi on commence?
Alors, on commence par l'iode.
Des huîtres. Aura...
Alors, des huîtres, mais pourquoi pas des oursins?
Pourquoi pas?
Parce que c'est rare l'oursin finalement. Les gens ne savent pas tellement travailler, c'est pas très compliqué à travailler, c'est pas plus compliqué d'ouvrir un oursin qu'ouvrir une huître. Et puis c'est juste, c'est d'une fraîcheur extraordinaire, enfin il faut qu'il soit frais bien sûr les oursins, mais c'est des trames infinies à tisser avec l'oursin. Donc moi j'ai envie en ce moment des notes sombres de l'oursin, qui seraient par exemple une crème qu'on aurait pu faire infuser avec un peu d'orge, on aurait rajouté un peu de whisky, on aurait rajouté nos langues d'oursin, et on aurait pu un petit peu le rafraîchir avec de la pomme, une petite pomme rainette, et voilà, et ça moi j'ai envie de ça, parce que je trouve que c'est simple à faire. Donc moi le premier oursin que j'ai fait il y a 20 ans, c'était une pomme, un oursin à la pomme, contre toute attente, mais ça fonctionne très bien ensemble.
Vous parlez de notes, vous parlez de couleurs aussi.
Oui,
c'est important.
La cuisine aussi, c'est oui, complètement. C'est les notes sombres, pour moi, ça a vraiment du sens. Et c'est les notes un peu plus masculines de ma cuisine que j'adore aussi faire. Puis après, on pourrait parler de légumes, parce que, comme le salsifis, aujourd'hui, le légume roi dans ma cuisine, le salsifis.
Donc ça, c'est pour le plat?
Ça, c'est pour le plat, ou ça peut être un plat dans le plat.
Pas trop de plat, Anne-Sophie, on est simple, nous. Donc, pour le plat, on fait quoi après
ça
cette entrée délicieuse?
Un avant-poularde. Moi, j'ai envie finalement du salsifis comme le plat, parce qu'on pourrait rajouter un petit peu de lard avec ce plat, donc on aurait quand même cet équilibre-là, et puis ça pourrait être avec un sabayon. Rendre gourmand un légume comme le salsifis, qui dans l'imaginaire des gens est quelque chose d'un peu, comment dirais-je, sectaire.
Et quelle saveur est-ce que vous croisez à ce moment-là, dans ce plat-là?
Là, j'amène la sucrosité d'un miel de calune, d'un miel de bruyère. Je vais amener la note sobacha, donc du sarrasin. Et je vais amener la note de la bière aussi, parce que déglacer à la cuisson... Alors moi, je fais ça sur la plancha, mais déglacer les salsifis avec de la bière, les cuire dans un déglaçage de bière, ils vont se lustrer tout doucement, briller, et amener une petite note amère et en même temps sucrée avec le miel, c'est quelque chose de fabuleux. On met un petit peu d'eau dans une pipette, un peu de miel, un peu de bière, et ça fonctionne très bien, le déglaçage se fait tout seul et ça lustre le salsifis.
Ouais, enfin, avec tout ça, on a du whisky en entrée et de la bière pendant le plat, Sophie.
Oui, mais c'est Noël.
C'est quand même un problème. Est-ce qu'il y a des associations malheureuses? Est-ce qu'il y a des arômes qu'il ne faut surtout pas associer sous peine d'échouer à Top Chef, par exemple, ou à Noël, ce qui est encore pire?
J'ai tendance à penser que tout pourrait à peu près s'associer, seulement il faut trouver le fil conducteur. Donc c'est ça. Dès qu'on l'a, c'est faut que ça fonctionne.
Dessert.
Dessert. Alors dessert, millefeuille blanc. Bon, c'est un classique.
Vous avez choisi le plus simple.
C'est un classique. Mais on pourrait ne pas faire de crème pâtissière, mais penser peut-être à faire millefeuille blanc à la crème avec une vanille qu'on ferait infuser dans la crème à froid longtemps avant de faire notre crème montée, ce qui permettrait de bien infuser. Et puis rajouter une fleur de jasmin, par exemple, séchée qu'on aurait fait infuser, ou du thé blanc dans cette crème, ça pourrait être assez joli. Et rajouter un petit poivre de votre périphérie, ça c'est un accord que j'adore faire, parce que le poivre sur la fleur, c'est juste magique.
Oursin, salsifis, millefeuille, est-ce qu'on est censé avoir encore faim? N'allez pas m'ajouter des mignardises ou un café gourmand? Certainement pas, c'est pas notre genre. Quand vous avez faim, Anne-Sophie Pic, à quoi est-ce que vous ne résistez pas?
Oh, c'est terrible, il ne faut pas que vous me posiez la question.
C'est la dernière question.
Bon, j'ai toujours... Toujours un bon saucisson dans le frigo. J'adore la charcuterie, c'était. Non, mais le chocolat, voilà, c'est ça. On n'est pas très très loin de.
Lequel? Le noir.
Le noir, non, toutes les couleurs. Hein, moi, je suis vraiment. Bon, le noir de préférence, mais voilà, parce que c'est peut-être celui le plus puissant. Mais oui, voilà, j'ai été élevée au chocolat. Hein, on est dans la vallée du Rhône, pas très loin de Terre-l'Hermitage.
Une barre de chocolat, une bille, comme disait ma grand-mère.
Ouais, avec une petite tartine de pain beurré, ça, c'était c'est mon dessert, mon goûter d'enfance.
On revient toujours aux originaux. Merci infiniment, Anne-Sophie Pic, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vos restaurants, La Dame de Pic, à Paris, Londres, mais aussi votre bistrot chez André, à Valence, restent ouverts pendant les fêtes. Et sinon, les auditeurs et auditrices peuvent évidemment réécouter vos recettes sur le podcast de Boomerang et sur la page de cette émission, comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, à vous aussi, Anne-Sophie, évidemment. Tout de suite, Dorothée Barba, les médias, juste après ça.
Je ne reconnais plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? Je peux te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit: souris à la vie quand tu croises le bonheur. Si vite arrivé, si vite reparti. Souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, que tu souris. Voilà ma seule terre. De ton absence, la vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois.
Sur France Inter, tout de suite, c'est l'heure des médias avec Dorothée Barba.
Merci Augustin, et à demain.